Entre nous soit dit, une émission présentée par Fabrice Adjadj avec Anne-Laure Bock. La médecine moderne, médecine technoscientifique qui est la gloire de la civilisation occidentale, médecine prométhéenne qui nourrit nos fantasmes par des prodiges quotidiens, cette médecine engendre d'étranges créatures qui deviennent son tourment, peut-être même son châtiment. Grands vieillards dépendants, dont les familles ne veulent ou ne peuvent assumer pleinement la charge, polyhandicapés dont la survie prolongée est un défi au sens même de la vie, mourants qui n'en finissent pas de mourir, souffrants qui n'en finissent pas de souffrir. Mais aussi égoïstes forcenés, consommateurs de drogues et de prothèses diverses, rêvant d'être bientôt augmentés, voire immortalisés, habités d'une démesure qui leur souffle, qu'il n'est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde entier à l'égratignure de mon doigt, comme dit David Hume. La médecine crée des monstres, monstres physiques, monstres moraux, monstres qui souffrent autant et même plus qu'ils font souffrir, monstres que la société a pour mission impossible de gérer. La médecine ayant rempli sa tâche, reflue comme la mer en direction du jusant, abandonnant sur le sable des épaves qu'il faut ramasser et entretenir à grands frais. Je voulais commencer avec cette longue citation à la fois pour introduire le thème de notre émission et pour approcher le style de notre invité, un style incisif et salutaire pour les intelligences, comme son scalpel peut être incisif et salutaire pour les cerveaux. Anne-Laure Bock, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurochirurgien à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, mais aussi docteur en philosophie avec une thèse remarquable intitulée « Médecine technique, médecine tragique » aux éditions Célie Arslan. Vous ne maniez cependant pas que le scalpel et la plume, vous maniez aussi le piolet puisque vous êtes alpiniste par passion et que vous avez retracé cette expérience dans un petit livre « L'euphorie des cimes, petite considération sur la montagne et le dépassement de soi ». Ce ne sont pas ces petites considérations sur la montagne qui vont nous intéresser ici d'abord, mais votre grande considération sur et pour la médecine et sur le fait qu'elle est dépassée, elle, par les monstres qu'elle produit. Il semblerait donc que la médecine soit malade et que la grande tâche pour notre santé commune soit désormais de guérir la médecine. Ce qui frappe dans votre réflexion au premier chef, Anne-Laure, c'est que vous ne cherchez pas à penser en aval du problème, comme le font la plupart des gens qui critiquent par exemple l'euthanasie. Vous essayez de penser en amont, en montrant que c'est la médecine qui désormais génère des cas qui nous rendent perplexes et qui par là défient la morale. Alors, nous avons vu les signes ou les symptômes monstrueux. Quelle est exactement la maladie qui atteint la médecine? Quelles en sont les causes? Docteur, pourriez-vous établir un diagnostic?
Eh bien, pour établir ce diagnostic, il faut partir du constat, de l'observation. Et le constat de la médecine, d'une médecine puissante, d'une médecine pleine de succès, c'est sans doute ce d'où il faut partir pour dire une première chose, c'est que la médecine est probablement malade de ses succès même. En tout cas, c'est ma thèse. La médecine n'est pas malade de ses défauts, en tout cas pas seulement malade de ses défauts, mais de ses succès, car la première chose qu'il faut constater, c'est ces immenses possibilités qui ont été ouvertes, remplies par la médecine. Qu'est-ce à dire malade de ses succès? Sans doute y a-t-il trois axes possibles et sans doute faudra-t-il explorer trois axes de difficultés. Le premier axe qui est un axe social, en résolvant des problèmes, on en résout d'autres. On crée des nouveaux problèmes qui avaient été, qui n'étaient même pas imaginables, qui arrivent, qui sont suscités par la résolution de problèmes résolus. Donc certains problèmes résolus suscitent des nouveaux problèmes plus difficiles à résoudre et qui risquent d'absorber en quelque sorte une part des succès et des réussites. C'est un premier axe de possibilité. Deuxième possibilité, l'extension de la médecine dans des directions qui n'étaient pas à proprement parler médicales. Du fait de ses succès, la médecine est convoquée pour résoudre des problèmes qui n'étaient pas initialement ceux de la santé, avec une extension en direction de toutes les, tous les domaines de la société. Ce sera un nouvel axe à l'origine d'excès, sans doute rendu possible par les succès. Et la dernière partie, qui n'est pas la moindre, sans doute, c'est la partie du fantasme, de l'imagination, de ce qu'on attend de la médecine. La médecine a tellement réussi, elle a fait beaucoup de promesses, avec beaucoup de courage, car la médecine s'est attaquée, et presque la dernière instance à s'être attaquée au dernier grand problème, peut-être de la condition humaine, j'ose le dire. Mais du coup, elle est dépassée, peut-être, par ses promesses. Et sa difficulté à remplir pleinement ce qu'on croit être son contrat dont elle a accepté les termes, finalement, suscite un certain désarroi ou un certain regret, où finalement la médecine n'est pas tout à fait à la hauteur, la médecine réelle n'est pas à la hauteur de la médecine rêvée. Et ce ressentiment, et d'où un certain ressentiment face à la médecine réelle.
Alors, on va commencer par le premier axe. Est-ce que cet axe que vous avez appelé social, est-ce que ça n'est pas un problème général, on pourrait dire, du progrès? Paul Virilio disait qu'à chaque fois qu'on inventait une nouvelle chose, on inventait aussi la catastrophe qui allait avec, avec le train, le déraillement, avec l'avion, le crash. Est-ce que c'est pas structurel? Et est-ce qu'il n'y a pas, en fait, un fantasme que le progrès technologique va se situer hors de la matière, par exemple, d'une fragilité intrinsèque à la matière? Je pense au fantasme du transhumanisme et au fait que, par exemple, Ray Kurzweil dit « nous transférerons nos consciences sur des supports non biologiques et à ce moment-là, nous deviendrons immortels ». Mais c'est oublié que c'est être exposé aux bugs, au piratage, et qu'il y a en fait une fragilité de tout support matériel. Et donc, effectivement, nous ne mourrons plus, mais nous tomberons en panne. Est-ce que c'est pas ça, le profil général de ces nouveaux problèmes qui sont créés par toutes les résolutions?
Exactement, et c'est en cela d'ailleurs que l'étude de la médecine est intéressante en soi, et pas seulement pour les soignants ou pour les malades. Vous me direz que ça fait déjà pas mal de monde, parce que entre les malades et les futurs malades, beaucoup de gens, ou quasiment tous, s'y retrouvent. Mais ce qui est intéressant dans l'étude de la médecine, c'est qu'elle est exactement en prise avec l'ensemble de la société. Je pense qu'elle exprime un peu la quintessence de la société moderne et technoscientifique. Donc tous les problèmes de la société sont visibles, grossis, rendus très, très perceptibles au sein des problèmes de la médecine. Donc effectivement, ça n'a rien de spécifique. Mais ça touche une dimension immédiatement sensible, car la maladie, la souffrance, la mort sont tellement au cœur de la condition moderne, elles nous touchent tellement dans notre chair que cette vérité est incarnée par la médecine. Elle devient immédiatement sensible. Et donc l'étude de la médecine permet de faire passer une réalité dont on pourrait vouloir s'abstraire, qui est une réalité qu'on pourrait appréhender de façon spéculative, dans notre chair, réellement, physiquement. C'est pourquoi ce qui est vrai dans la société en général est doublement vrai ou doublement sensible au sens de expérimenté par les sens dans la maladie, la mort, la souffrance, donc dans l'objet de la médecine.
Oui, c'est finalement devant le médecin que le symptôme se déclare le plus, et le symptôme qui affecte la société tout entière. Mais alors, justement, pour parler de la question des extensions, effectivement, on passerait donc d'une médecine qui cherche à soigner, éventuellement même à guérir, à corriger, à réparer, à une médecine qui voudrait être une médecine améliorative, de transformation de la condition humaine. Mais est-ce que cette extension n'est pas liée finalement à une sorte de déformation du concept aussi de santé? Je pense à la définition du préambule de 1946 de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS, qui dit la chose suivante, très très étonnante. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Est-ce que déjà en 1946, on n'a pas basculé du côté du transhumanisme, on pourrait dire, puisque demander finalement à ceux qui s'occupent de la santé de produire un complet bien-être physique, mental et social, c'est pas leur demander d'abolir la souffrance, d'abolir la mort?
Oui, c'est une définition qui est à la limite du délire. Et c'est vrai que c'est étonnant qu'elle soit si ancienne, parce que 46, ça paraît ancien, mais ça montre bien que le système était intrinsèquement dessiné pour évoluer dans le sens où il a évolué. C'est vrai qu'il y a un côté très précurseur dans ce délire totalitaire, car c'est une définition qui a un côté totalitaire et qui conduit la médecine à s'occuper de tous les aspects effectivement de la condition humaine, les aspects notamment sociaux. Le terme médecine, le fait qu'une société peut être malade, c'est bien un terme qui vient de la médecine, mais on a l'impression d'avoir été pris au mot par ce type de choses. Probablement, cela a été guéri, cela a été dû à une double évolution. D'une part, les succès de la médecine, et d'autre part, le défaut des, que j'oserais dire, les autres pouvoirs. En fait, 46, c'est juste après le désastre de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, en même temps que la médecine a volé de succès en succès dans son champ propre, le politique, si j'ose dire, je ne dirais pas qu'il a volé d'échec en échec, mais il s'est enfoncé dans une impossibilité, des difficultés dramatiques.
En même temps, on est, avec ces définitions, dans presque, on pourrait dire, une prolongation du biopolitique qui existait dans le nazisme.
Exactement,
on peut aller jusque-là. Alors, est-ce que l'Organisation mondiale de la santé est nazie? C'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Même si on a vu dans ces organisations internationales un recyclage incroyable de choses qui venaient de là, parce qu'on n'a pas pu balayer tout d'un coup l'histoire de l'Europe d'un coup de cuillère à peau, et parce qu'il y a eu la victoire de 45, Julian Huxley, qui était un darwiniste social, un eugéniste, se retrouve à la tête de l'UNESCO. Et c'est l'homme qui invente le terme transhumanisme et qui même le promeut. Et là, on trouve dans l'Organisation mondiale de la santé, effectivement, cette santé totalitaire qui nous laisse entendre que finalement, il va falloir, par la biologie, produire l'homme parfait ou l'homme qui va bien. Et ça nous fait penser aux expériences du docteur Mengele.
Oui, le réinvestissement du côté de la médecine, par la médecine, d'un espoir qui avait, au cours des derniers siècles, été investi en grande partie par la politique, dans la politique. Et l'échec de la politique à construire un monde meilleur est sans doute réinterprété à ce moment-là comme le fait qu'on n'a pas été assez radical, finalement. C'est un désir de radicalité, donc prendre le problème à la racine. Eh bien, quelle est la racine de la société? C'est l'homme, et l'homme, eh bien, il appartient à la médecine. Finalement, l'homme, c'est l'homme biologique, avec toutes ses limitations, tous ses défauts, toutes ses qualités aussi. Donc, là, le défaut des pouvoirs politiques va être peut-être réinterprété dans cette idée d'une ambition insuffisante d'aller à la racine. Et donc c'est à la médecine qui va revenir de corriger ce défaut essentiel qui a été à l'origine de tant de catastrophes. Et ce qui est étonnant, intéressant, effrayant, c'est que le pouvoir médical, je ne sais pas si on peut prendre ça, en tout cas les instances de la médecine, l'institution médicale, va se sentir plutôt bien avec cette proposition de prendre en charge. Finalement, je parle du courage, mais effectivement, c'est une institution qui ne va pas reculer devant la tâche herculéenne s'il en est, et va prendre sa part de cette construction. Et comme, par ailleurs, on va continuer à progresser sur le plan technoscientifique dans la guérison ou le traitement de beaucoup de maladies avec beaucoup de succès, ça va accréditer l'idée qu'effectivement on est capable de ne pas ployer sous cette tâche et d'aller de proche en proche toujours plus loin et d'étendre ses possibilités. Donc un mélange de défauts des autres pouvoirs et d'acceptation de la nouvelle charge avec une confiance. La médecine, depuis l'après-guerre, depuis ses 70 ans, a fait preuve d'énormément de confiance.
Oui, avec donc ce moment, et je pense quand même ce moment des grands totalitaristes du XXe siècle qui qui sont déjà des lieux d'articulation du politique et du technoscientifique, oui, et qui permettront ce basculement avec une sorte de réinvestissement du côté de la science et de la science biologique.
Vu comme absolument bonne. En fait, à cette époque, et c'est quand même après aussi la bombe, et la science qui était porteuse de progrès devient aussi, à l'évidence, porteuse de menaces. Et donc, on va chercher une science qui est absolument bonne, qui n'a pas cette face obscure.
C'est la médecine.
Et ouais, c'est sans doute pourquoi on est passé de la passion pour la physique à l'idée que la biologie, qui donc débouche sur la médecine, était aussi et même plus efficace et sans face obscure, avec l'idée qu'il n'y a pas de face obscure dans la médecine. Et c'est après qu'on découvrira peu à peu la face obscure. Mais au tout début, la médecine n'est pas vue comme pouvant être autre chose qu'au service de l'homme.
Alors, vous parlez, c'était votre troisième axe, du fantasme que génère la médecine, mais malgré tout, ce fantasme est fondé sur des réalités. Il y a eu des progrès considérables. D'ailleurs, on pourrait presque dire que toute critique du progrès, dès qu'on l'énonce, on en fait souvent l'expérience dans une conférence, mais il y a toujours quelqu'un qui lève le doigt et qui dit « Bon, d'accord, le progrès, vous critiquez les désastres écologiques, tout progrès, les problèmes de la technologie, de l'hypertechnologie, de la digitalisation du monde, mais quand même, la médecine. Hein, qu'en est-il ? Vous voulez vivre comme à l'époque de la petite maison dans la prairie, mais malgré tout, qu'est-ce que vous faites des merveilles du bloc opératoire ?» Donc, il y a eu effectivement un progrès par cette médecine technoscientifique, mais ce que vous dites, c'est qu'on a atteint une sorte de, reprenant un concept d'Ivan Illich, de seuil critique, de contre-productivité paradoxale. Donc en fait, l'idée, ce serait de dire, c'est le progrès illimité finalement qu'on veut critiquer, et c'est là que se jouerait le fantasme d'une certaine façon.
Exactement, le fantasme est bien nourri par une réalité, en fait un passé qui en l'occurrence est assez glorieux, mais le fantasme survient quand, au lieu de remettre ce passé en perspective, de le voir comme inscrit dans une histoire qui n'est pas forcément illimitée, de manière très démesurée, déborde et se projette hors de ses cadres d'application et de référence. Or, pour la médecine, il y a eu des cadres d'application et de référence, la médecine passée et les progrès de la médecine, et ces cadres sont en train d'exploser complètement, notamment en raison de cette extension de la façon de penser de la médecine à des domaines qui n'étaient pas initialement ceux de la médecine.
Vous pourriez donner un exemple ?
Mais par exemple, l'éducation. L'éducation est le problème des enfants hyperactifs, dont on voit actuellement que la solution est forcément médicale. Finalement, tous les problèmes d'éducation devraient se traiter par la médecine, en donnant de la Ritaline aux enfants hyperactifs ou d'autres médicaments, avec une médicalisation à proprement parler de l'éducation. L'affectivité, l'amour, les relations sentimentales et les pannes éventuelles seront traitées par le Viagra. Vous voyez qu'il y a un domaine de l'expérience humaine qui est très vaste et complexe, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas une partie de pathologie dans certains dysfonctionnements, mais la simplification qu'il peut y avoir à réduire cela à un problème médical uniquement. Il y a vraiment...
C'est
et donc, en fait, ça déborde de son cadre d'application.
Le vieux fantasme du filtre d'amour, quoi, en fait. Le passage d'une médecine à une magie ayant tout pouvoir.
Bien sûr. Et on peut penser... Et le fantasme naît d'un va-et-vient entre des désirs profonds anciens et qui sont avant la réalisation, puis la réalité, mais plus ou moins... force à mettre un peu un petit frein à ces désirs d'illimité, ou dans d'autres domaines, elle nourrit la possibilité d'une réémergence. Donc en fait, la réalité soit cadre les fantasmes initiaux, soit permet de leur redonner un nouveau souffle. Et en l'occurrence, dans la médecine, c'est un nouveau souffle de fantasmes. Ils sont anciens, le désir d'immortalité, le désir de toute puissance, le désir de se contrôler soi-même. Tous ces désirs-là n'ont pas attendu la médecine pour occuper le cœur de l'homme. Mais la médecine permet que la réalité, au lieu d'être un frein, on voit une lueur de pour la réalisation. Rendre réel, la médecine est quelque chose qui a pour but de rendre réel, de faire passer une idée à une réalisation. La médecine est réalisante, comme toute technoscience. La technoscience procède du rationnel, voire de l'imagination, mais du rationnel vers le réel, et non pas du réel vers le rationnel. Donc il y a eu une inversion par rapport à la science d'autrefois, qui est une science de description. La technoscience, la science moderne est une science qui a pour but de réaliser ce qui est peut-être des fantasmes.
Alors, un lieu de contre-productivité paradoxale assez flagrant, c'est la procréation médicalement assistée. Cette procréation qui est une procréation qui va aller du côté qui est du côté de la vie par définition, mais qui, quand elle devient médicalement assistée, et pas simplement assistée finalement, mais carrément prise en charge entièrement par la technoscience, eh bien, c'est une institution qui va produire de la mort. Et des situations assez incompréhensibles, notamment à travers justement la production des fœtus en surnombre. Alors Ancionas, dans une conférence, disait la chose suivante, hein, la production de fœtus en surnombre crée un problème complètement nouveau, insondable et moralement si troublant qu'on doit l'éviter quasiment à tout prix, fût-ce en renonçant à la procédure elle-même et donc à l'enfant désiré. Autrement dit, quand on a ces embryons dits surnuméraires congelés, en l'absence de tout projet parental, enfin je ne sais plus quelle est l'expression employée techniquement, qu'est-ce qu'on en fait ? Un bon chrétien pourrait dire, mais voilà, la nouvelle solution, c'est qu'une jeune femme, une jeune vierge, demande l'implantation d'un de ses enfants en elle, mais en même temps, ce serait donner un crédit extraordinaire tout d'un coup à cette technique. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On doit les conserver, on doit faire des expérimentations pour faire avancer la recherche, on doit, ce qui semble peut-être la solution morale la plus souhaitable, mais en même temps c'est une solution finale, les décongeler et les laisser mourir. Et donc on est face à quelque chose qui nous rend complètement perplexe. Alors face à ce type de situation générée, que pensez-vous justement de la création de ce vaste domaine qui se trouve partout, qui devient une étiquette de l'éthique et de la bioéthique. Est-ce que finalement la bioéthique est la réponse aux problèmes qui sont générés par la médecine, ou est-ce que ça n'est pas d'une certaine façon un aveuglement, parce que c'est ne pas voir en fait la perplexité dans laquelle nous met cette situation nouvelle de la médecine, qui d'une certaine façon ne relève pas directement, en tout cas, d'une éthique qui essaierait de discerner face à des cas imposés par cette technoscience.
Bon, y a beaucoup de choses dans votre remarque. Et tout d'abord, c'est vrai que partir de la PMA, de la procréation médicalement assistée, c'est intéressant parce que c'est typiquement le domaine où on voit que la médecine est en train de passer d'une tentative de remédiation à une situation, à une tentation de modification de conditions. Remédier à une situation, changer une condition, avec la possibilité de changer un présupposé fondamental de la condition humaine, qui est une condition de reproduction sexuée, etc. Et donc la PMA ouvre des possibilités très larges, qui sont hors de la condition humaine naturelle. En fait, c'est une façon de faire naître un artifice avec lequel, il ne faut pas s'en étonner, on va être extrêmement démuni avec notre bagage anthropologique pour penser les choses. Günther Anders, où était Hannah Arendt, disait déjà, il y a pas mal d'années, dans l'après-guerre, actuellement, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de penser ce que nous faisons. Nous faisons plus que nous pensons. Et c'est exactement ce qui se passe.
C'est le décalage prométhéen, voilà. chez Anders.
Nous faisons plus, nous pouvons faire plus que nous pouvons penser. Anthropologiquement, il y a effectivement un décalage de nos capacités techniques qui sont supérieures à nos ou nos capacités philosophiques.
Et de représentation.
Et
il disait, on peut très bien se représenter le fait d'égorger quelqu'un, et encore, mais une ville entièrement détruite par une bombe atomique, finalement, ça dépasse notre imaginaire, ça dépasse nos capacités de représentation, et donc ça dépasse même notre capacité de responsabilité.
Exactement, avec une impossibilité. Et chez Anders, il y a une impossibilité qui va, en concluant, il y a un livre qui est d'entretien qui est publié sous le titre « Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse ?»« Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse ?» Eh bien oui, il y a une espèce d'arrêt et d'impossibilité. On est dépassé par cette technique qui a bien été créée par les hommes, mais par les hommes en tant que collectif, et qui laisse l'homme individuel extrêmement démuni. Alors, la tentative de la bioéthique pour penser malgré tout, bon, c'est quand même, on peut déjà la saluer, puisque déjà, la tentative est en soi plutôt souhaitable. Au moins, vis-à-vis d'un problème, il est mieux d'essayer de le nommer et de s'y affronter. Donc, la première chose vis-à-vis d'un problème, c'est sans doute de ne pas l'éviter en permanence. La fuite permanente, c'est sans doute pas une solution. Est-ce que cependant, la bioéthique est une solution, est la solution ? Alors, faut d'abord dire que le terme solution est typiquement quelque chose qui vient du vocabulaire technique. Notre civilisation technoscientifique adore les solutions. Tout problème doit avoir sa solution, et donc un problème moral devrait avoir une solution, exactement comme un problème technique a sa solution, et cette solution, ce serait la bioéthique. Vous voyez dans cette formulation ce qu'il y a d'un peu pathétiquement réducteur, oserais-je dire. Donc, tant que la bioéthique pose les questions, c'est très bien, et poser les questions est très bien, mais croire que des solutions sortiront forcément de la bioéthique, c'est sans doute une sorte de naïveté, une naïveté alimentée encore une fois par cette modalité technique de réflexion qui est qu'on pose bien un problème, on le décortique, on l'analyse, et donc on va le résoudre, et sans doute est-ce moins simple. Donc, si je n'ai aucun regret quant à la naissance de la bioéthique comme questionnement, je suis assez dubitative quant à la possibilité que la bioéthique soit la solution, et apporte vraiment la ou même les solutions.
Alors, on pourrait essayer de penser non pas une solution, mais peut-être une manière de... plutôt que de penser du côté de l'éthique, mais de penser du côté de la pratique médicale elle-même, quelque chose qui serait de l'ordre de la juste médecine, ou d'une médecine en bonne santé. On pourrait employer même un terme encore d'Ivan Illich, on pourrait dire une médecine qui serait proportionnée, qui aurait la bonne proportion. Alors justement, à ce sujet de la proportion, vous êtes chirurgienne, vous faites des interventions avec vos mains. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la chirurgie, par définition, c'est le travail de la main, la place de la main, l'intrusion des machines qui dans le travail chirurgical, quelle est votre pratique de ce côté-là, et qu'est-ce que vous en retirez justement philosophiquement par rapport à notre problème?
Eh bien oui, ça paraît étrange à ceux qui ont une vision sombre de la chirurgie, qui ont peur de la chirurgie. Le chirurgien est effrayant, hein. Il a un côté agressif, ça fait saigner, il y a un mythe de la chirurgie.
Ça a été interdit pendant longtemps.
Ça a longtemps été interdit, il y a un côté de profanation, de sacrilège.
Couper la peau, entrer à l'intérieur du corps.
Ouvrir les corps est quelque chose qui est effrayant. Et donc, on voit le chirurgien comme étant l'homme de la démesure, forcément. Puisqu'il a fait cette première profanation, on ne peut pas imaginer qu'il ne soit pas conduit d'une profanation à l'autre, à expérimenter toutes les profanations. Et comme la profanation principale de notre civilisation, c'est la démesure, le chirurgien serait l'homme de la démesure, forcément. Or, c'est sans doute assez faux, même très faux, et l'expérience prouve le contraire, car mis face à cette demande de démesure, le chirurgien étant confronté à un réel, confronté au réel, ce réel le resitue automatiquement à quelque chose qui se rapproche à nouveau de la mesure. Donc, si vous voulez, le chirurgien part peut-être d'une ambition démesurée, mais son rapport direct, obligatoire, immédiat, sans médiation au réel, un réel qui résiste, qui saigne, qui ne se laisse pas mettre en forme comme sur un écran avec un joystick, ce réel le remet automatiquement à sa mesure, qui est une mesure humaine, en fait.
Qui est la mesure manuelle.
Alors certes, la main est prolongée par l'instrument technique, mais pour être utilisé, l'instrument technique a quand même besoin d'être à la dimension de la main. Et vous remarquez, par exemple, la dimension de la chirurgie ne peut pas diminuer en dessous d'un certain seuil. Et aujourd'hui, on peut, par exemple, la biologie moléculaire ne parle pas et n'est pas utile pour la chirurgie. C'est trop petit. On ne peut quand même pas opérer des molécules. Mmh. Donc, il y a un moment, pour une question d'échelle, d'ailleurs simplement physique, de taille, de ce sur quoi on exerce son art, assistant ou sa technique, si vous voulez, là, on ne peut pas descendre plus bas qu'une certaine taille, et donc ça va arrêter finalement ce mouvement de la démesure, dans un sens, comme d'ailleurs dans l'autre. Donc la chirurgie qui avait pu paraître comme le lieu d'une certaine démesure, en pratique, remet l'homme à sa mesure. Finalement, pour que la technique continue, il ne faut pas frapper de caducité les efforts et les capacités du technicien. Le technicien, le chirurgien, doit rester utilisable. Vous voyez qu'il y a, j'utilise volontairement des mots de la technique. Le chirurgien, en tant que technicien, ne doit pas être frappé de caducité. Et donc, on doit rester dans une dimension physique, donc anatomique. Donc, si vous voulez, le chirurgien utilise son anatomie et sa physiologie humaine, seulement humaine, trop humaine, pour l'exercer sur des hommes qui eux-mêmes ont une dimension humaine. Donc, d'un côté comme de l'autre, on est dans une certaine mesure. Et c'est pourquoi la chirurgie ne peut pas trop déborder, et finalement, dans notre monde, paraît assez mesurée.
De fait, ici, il ne s'agit pas de rejeter la technique, ni même, à la limite, la technoscience. Mais il s'agit que l'homme puisse encore avoir la technique en main. Le vrai problème, c'est l'émancipation de la technique, émancipation venant de ex manu capere, ce qui échappe à la main, et qui se fait spécialement par le passage de l'outil qu'on tient en main à la machine-outil, déjà, dont Marx disait justement qu'on était dépossédé, que c'était le capital qu'il avait, mais c'est plus tellement le manuel, et qu'en plus, alors que l'outil, c'est la cadence du travailleur qui s'impose à l'outil, là c'est l'inverse, c'est la machine qui impose sa cadence infatigable au travailleur. Et puis là, on passe maintenant à des machines électroniques en réseau, avec des clouds dont on ne comprend absolument rien de l'information qui y circule. Donc là, ça nous échappe. Enfin, ce serait disproportionné. Il y a quelque chose où à nouveau, c'est la machine qui, d'une certaine façon, s'impose à nous. Alors, ça voudrait dire qu'on serait, vous reprendriez peut-être cette distinction qu'on trouve chez Ivan Illich entre les outils maniables, les outils manipulables ou l'outil convivial qui reste encore maniable, qui d'une certaine façon n'abolit pas à la fois la main, l'autonomie, enfin, ou la maîtrise qui est liée à la main, et qui n'abolit pas non plus la possibilité d'être avec l'autre, la dimension sociale médiatisée par l'instrument.
Tout à fait. Comment ne pas être dépassé par la technique ? Comment avoir des instruments qui sont encore maniables et ne pas devenir manié par les instruments.
C'est le sens d'ailleurs du manipulable chez Illich, parce que souvent nous comprenons la manipulation comme le fait de faire du mal à l'autre, du côté de celui qui est manipulé. Mmh. Mais Illich montre bien que c'est le manipulateur qui lui-même est diminué dans son rapport au monde, et qu'il est lui-même dans une position où il déclenche des processus programmés et qu'il n'a plus finalement ce qu'il fait en main.
Oui, oui, l'analyse d'Illich est extrêmement pertinente pour la médecine. Bien sûr, il a réfléchi la médecine, mais ne parle pas du tout de la chirurgie, sans doute parce qu'il était à une époque et dans un système où il regardait plutôt du côté de la médecine quotidienne, la médecine traditionnelle. Et c'est vrai que la chirurgie ne peut pas être vu comme transférable directement à l'homme quotidien, au quotidien. Et pourtant, la chirurgie aujourd'hui est en train devenir une sorte de refuge pour les médecins. Et là, je vais vous révéler quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais il y a un refuge, notamment dans le choix de cette spécialité par des étudiants qui n'ont pas envie de faire trop de science. Pour faire échapper à la science, notamment quand on veut faire une carrière hospitalière, échapper finalement aux obligations de faire beaucoup de recherches, de laboratoires, la chirurgie est un bon moyen. Et beaucoup d'étudiants qui, en médecine qui veulent être au plus près du malade choisissent la chirurgie parce que ça reste au niveau du malade.
Et parce que, en plus, la pensée et l'action sont unies,
c'est ça ? Et la pensée et l'action sont unies, sans médiation, le côté immédiat du rapport direct, incarné de la chirurgie. Alors certes, la chirurgie s'exerce sur un corps objectivé. Le chirurgien a besoin de l'anesthésiste, si vous voulez, pour désanimer le corps, endormir le corps et séparer du corps ce sur quoi on ne va pas s'occuper, l'âme, des choses qui seront mises à part, et pour mettre à disposition du chirurgien l'organe sur lequel il va pouvoir travailler. Mais il y a un mouvement d'aller-retour, hein, la décomposition qu'il met à disposition, puis la recomposition. Avec d'ailleurs tout un cérémonial qui est assez troublant et auquel la plupart des chirurgiens sont très attachés. Le début du bloc opératoire, avec le moment où on se lave les mains, s'habille, rentre dans cette espèce de rôle qui est très central. En fait, il y a un côté d'ailleurs assez narcissique là-dedans. On pourra parler du narcissisme des chirurgiens. La mise des champs opératoires qui détermine la zone où on va opérer. Là et par ailleurs, vous voyez, c'est un exercice de la limite. Le champ opératoire, vous savez, ce sont ces tissus ou ces papiers qu'on colle autour de la zone à opérer et qui sont là, certes, pour délimiter un champ de stérilité, mais aussi et surtout pour concentrer l'attention, le soin sur un seul organe. Donc c'est là et pas à côté. La chirurgie est un exercice de la limite. Et puis à la fin, on va enlever ces champs et on va réveiller le malade. Et si tout s'est bien passé, on refera à l'envers la recomposition de ce qu'on a décomposé. Donc ce mouvement qui est très incarné remet perpétuellement, tous les jours, quotidiennement, l'homme face à ses limites, le chirurgien. Donc vraiment, je pense que la chirurgie aujourd'hui est une école, n'est pas une école de la démesure, est une école de mesure. En plus, si on dérape, on est très vite rattrapé par l'échec parce que les conséquences sont vite très graves. C'est un jeu qui a un enjeu suffisamment sérieux pour qu'il nous remette à notre bonne situation. À la question « le chirurgien se prend-il pour Dieu ?», je répondrai donc non, parce qu'il a sans doute trop d'échecs pour le pouvoir. Mais en revanche, ce dont on peut parler, c'est son besoin que les autres éventuellement le prennent un peu pour Dieu, pour qu'il soit tiré vers le haut par ce rôle qu'il endosse chaque jour. Et il y a une excellence de la rivalité mimétique.
Mais en même temps, c'est peut-être parce qu'il y a cette transgression symbolique, c'est-à-dire d'ouvrir la chair, d'ouvrir le corps. Peut-être qu'il est aussi celui qui a besoin d'une reconnaissance spéciale pour lui rappeler, parce que symboliquement, il opère cette transgression pour lui rappeler que ce qu'il fait peut être bon, finalement.
Exactement. L'importance de la reconnaissance sociale pour le chirurgien est majeure. Et c'est sans doute ce qui le tient dans des rails et l'empêche de trop dérailler. Oui. C'est-à-dire qu'il est important de ne pas déchoir par rapport à cet imaginaire qui est... C'est extraordinaire de penser ce qu'on nous met entre les mains. Finalement, c'est très émouvant de penser à cet abandon que vont avoir les gens. Accepter d'être endormi, de lâcher complètement le contrôle pendant cette durée de l'opération, c'est très émouvant. Et ça donne une responsabilité que l'ophtalmologiste Yves Pouliquen, qui a écrit un beau livre sur la chirurgie qui s'appelle « Le geste et l'esprit », il y parle d'une responsabilité exquise. Vous voyez, exquise comme une douleur, mais en même temps, quelque chose qui nous pousse en avant et qui nous excite, pour le meilleur, j'espère, et pas trop pour le pire. Donc il y a à la fois l'excitation vers la démesure et l'obligation de revenir dans la mesure qu'on va vivre au travers du réel, qui est le réel du corps incarné et du corps qui va se venger si on dépasse les bornes.
Alors, pour continuer sur un paradoxe, après ce paradoxe donc de la chirurgie qui était apparemment le lieu de la démesure et qui pourrait être finalement exemplairement ou emblématiquement le lieu d'une certaine mesure dans la médecine, du fait même du travail de la main.
Vous voyez, le lieu d'une mesure obligatoire, c'est pas par vertu du chirurgien.
Non, c'est pas par vertu, c'est pour
c'est
ça que je disais,
par nécessité du
on
réel.
On s'est déplacé vraiment de la question de l'éthique ou de la solution éthique, mais à une question qui est de dire, reconsidérons la pratique, le faire médical lui-même. Alors, justement, pour aller vers un autre paradoxe, finalement, si la médecine génère des monstres, c'est peut-être aussi parce qu'elle n'a pas su, ou nous n'avons pas su, les accueillir. Ce que je veux dire, c'est que nous refusons le drame. Nous pensons, justement, comme le dit l'OMS, nous visons un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc, il y a un refus d'emblée de la condition humaine comme condition tragique. Et donc, comment aller vers cette acceptation du drame ? Vous avez écrit votre livre pour faire un lien entre votre l'alpinisme et votre réflexion sur la médecine. Vous avez employé le terme dépassement de soi, qui est aussi une manière, parce que le dépassement de soi, on pourrait le voir comme quelque chose qui va toujours plus loin, mais qui est aussi plutôt une manière d'endurer et d'accepter des limites et d'accepter une dimension dramatique et d'accepter une souffrance, d'accepter une peine. Est-ce que, pour relier les deux parties, on pourrait dire, de votre activité, comment est-ce que vous penseriez ça, justement, accepter jusqu'à un certain point le drame ?
Ça, c'est une chance de la médecine, que dans une société qui met à l'écart le drame et le tragique, la médecine a accepté courageusement, je le dis courageusement, de s'en charger. Et donc, elle est confrontée à une part essentielle de la condition humaine que bien souvent on ne veut pas voir. Ça lui donne des responsabilités difficiles, et sans doute n'est-elle pas à la hauteur de ses responsabilités. Mais au moins, elle a cette chance de devoir garder les yeux ouverts sur une partie essentielle de la condition humaine.
Mais la manière dont elle ouvre les yeux, c'est un refus du tragique, parce que le tragique, dans son origine, il est vertical. C'est toujours l'homme qui est livré aux dieux. Ce n'est pas simplement la souffrance. Et c'est donc cette dimension à l'intérieur d'une situation qui est effectivement dramatique, où il y a souffrance, où il y a bouleversement, où il y a écrasement de nos projets. Malgré tout, une ouverture verticale. L'homme se manifeste dans une dignité qui est qu'alors même qu'il est écrasé, il crie vers le ciel. Et donc, il ouvre quelque chose qui est plus qu'un horizon. Alors là, est-ce que il s'agit simplement d'abolir le cri ?
Oui et non, car la médecine est un faire, mais c'est aussi un spectacle. Donc, le fait d'être là, ici et maintenant, au contact de ce que beaucoup ne peuvent pas voir dans la société, fait que le médecin, le soignant en général, n'est pas seulement un acteur, mais aussi un spectateur. Donc il est aussi un spectateur de son propre échec, par exemple. Il est resitué obligatoirement, et j'allais dire presque toujours dans les maladies graves, face à l'échec. Donc il vit cet échec, car la mort de ses patients, il la vit aussi, et il en est le spectateur en même temps, autant et même plus qu'il est l'acteur. Il est un acteur qui un jour sera pris en défaut. S'il accompagne ses malades jusqu'à la fin, il ne peut pas oublier ce spectacle, il ne peut pas se voiler les yeux. Donc, vous savez, en médecine, on dit toujours, d'ailleurs dans les comptes rendus, comment faire un compte rendu, notamment un compte rendu opératoire. On fait faire des comptes rendus opératoires à nos étudiants. Moi, j'emmène beaucoup mes étudiants au bloc, mais des étudiants très jeunes, des jeunes de troisième année, et je leur demande, quand ils sortent du bloc, de faire le compte rendu. Et ils ne savent pas, je leur dis, mais qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois dire ce que tu as vu et ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as vu ? Décrire la tumeur, par exemple, l'état pathologique, et ce que tu as fait. Donc, la médecine fait, mais elle voit aussi. Et elle s'enrichit de cette expérience qui est régulièrement une expérience de la souffrance et de l'échec, mais elle ne peut pas faire l'impasse sur cet échec. Et ça, c'est un enrichissement réel de cette activité, parce qu'on est d'un côté de la condition humaine qui est mise sous le boisseau dans notre société moderne. on participe au fait d'évacuer le tragique, mais en même temps, on n'arrive pas complètement, donc on en reste le spectateur fasciné.
De toute façon, on l'évacue, spectateur oui, fasciné, mais c'est-à-dire aussi paralysé, c'est ça ce que je veux dire. Parce
oui,
que
paralysé, la
question, puisque la seule réponse qu'on pourrait donner, si on reste simplement au niveau, je dirais, je ne parle pas du médecin en tant qu'homme, mais du médecin en tant que praticien, eh bien... Ce refus du tragique ne fait d'une certaine façon que l'aggraver. Hein, c'est ce qu'on a vu. Je refuse l'enfant trisomique, mais à ce moment-là, je vais produire une entreprise de mort industrielle ou de destruction de la condition humaine pour fabriquer quelque chose d'autre. Bon, donc il y a un refus initial du tragique qui va aggraver la situation et qui va donc multiplier la tragédie. Donc ça nous revient à la figure. Mais la question, c'est comment on y répond. Est-ce que il n'y a pas une dimension qui est une dimension externe à la médecine? Et est-ce que justement la vision du médecin, ce qu'il voit par rapport à son faire, ce ne serait pas de s'ouvrir à autre chose?
Vous avez raison, mais le médecin, le soignant, est aussi un citoyen. Et donc, cette expérience qui est la sienne, qui est une expérience très riche, il peut en faire bénéficier la société en général. Donc, d'une part, il a, lui, un enrichissement personnel par cette activité, qui est une activité qui ne lui permet pas de s'abriter en permanence derrière les beaux et grands espoirs déçus. Et donc, il est confronté au tragique. Il peut faire quelque chose individuellement et personnellement du tragique. Et je pense quand même que la société est faite des individus qui la composent. Donc, il fait partie de cette société. Et s'il peut communiquer, en quelque sorte, comme on dit aujourd'hui, sur cette expérience, c'est une expérience qui n'est pas uniquement individuel et uniquement pour lui. Donc le médecin ne doit pas renoncer, le soignant ne doit pas renoncer à ce devoir de communiquer cet indicible qu'il a ressenti au travers de son échec. L'expérience de l'échec, je trouve qu'elle est malheureusement trop peu, trop cachée.
On ne parle que des succès de la médecine.
Exactement, on ne parle que des succès. Et bien sûr, comme on est...
Et c'est ça qui l'a conduit à l'échec, d'ailleurs, c'est-à-dire à engendrer des monstres, finalement. Oui, comme vous avez dit, elle est malade de ses succès.
Il y a un intérêt à travailler pour nous l'échec et ne pas le cacher. Ce qui est terrible, c'est de le mettre dans le petit trou de la souris et de ne pas en parler. Et ça, dans la communication de la médecine, c'est sûrement un énorme défaut. Alors que la société pourrait être enrichie par cette réflexion sur l'échec qui est la nôtre. Donc individuellement, nous sommes, je pense, humainement enrichis par notre confrontation quotidienne, si j'ose dire, à l'échec, à la maladie, à la souffrance, à la mort, à notre échec, ce qui nous remet à notre taille. Mais c'est vrai que, j'ai envie de dire, c'est par pudeur ou par orgueil, nous ne voulons pas parler de ça. Nous gardons ça pour nous d'habitude. Et ça, c'est quelque chose que nous volons à la société, parce que c'est quelque chose de très important.
Alors, cette émission touche à sa fin. Je voudrais vous poser une dernière question, qui est un peu dans le prolongement de ce que j'essayais de dire ou d'induire précédemment. Bien sûr qu'on peut chercher à être soigné et à guérir de sa maladie, mais on peut, comme Pascal, prier pour demander à Dieu le bon usage de la maladie. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'aveuglement du fait qu'on ne cherche plus à penser finalement la maladie dans son caractère positif? Admettons que l'on veuille soigner n'importe quelle personne atteinte de cécité, eh bien on ferait disparaître Ray Charles et Stevie Wonder, chez qui la cécité a été le lieu d'autre chose. Alors je voudrais finir avec un texte d'Antonin Artaud et je voudrais vous demander de réagir sur ce texte. C'est un texte d'Artaud qui s'intitule « Les malades et les médecins ». Et voilà ce que Artaud écrit. « La maladie est un état, la santé n'en est qu'un autre, plus moche. » Vous voyez le renversement qu'il cherche à opérer, hein, disant que la maladie peut être un lieu finalement d'invention humaine et de dépassement qui n'est pas celui de du transhumanisme, mais au contraire de quelque chose de beaucoup plus profond. Je veux dire, la santé est un état plus moche parce que plus lâche et plus mesquin. Pas de malade qui n'ait grandi. Pas de bien portant qui n'ait un jour trahi pour n'avoir pas voulu être malade comme tel médecin que j'ai subi. J'ai été malade toute ma vie et je ne demande qu'à continuer, car les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises. Les crédences petites bourgeoises de « la bonne santé suffit ». C'est ainsi que je considère que c'est à moi, sempiternel malade, à guérir tous les médecins, nés médecins par insuffisance de maladie, et non à des médecins ignorants de mes états affreux de malade, à m'imposer leur insulinothérapie santé d'un monde d'avachi.
Mais c'est vraiment bien Artaud, avec son côté nietzschéen de critique de la grande santé, parce que c'est très vrai, mais alors là, il y a de l'espoir, parce que je vous rassure, du fait de cette iatrogénèse sociale ou structurelle, la médecine va continuer à fabriquer de la maladie, notamment de la maladie chronique. Parce que vous savez, ce que fait la médecine, c'est d'éviter que les maladies aiguës se finissent trop vite par la mort du patient qui réglerait le problème. À propos de régler le problème, chercher une solution, la voilà. La mort règle le problème définitivement. Et elle permet aux maladies de se développer dans le temps, ce qui nous permet d'en jouir au long cours. Espérons que cette jouissance n'est quand même pas trop contrebalancé, là encore c'est une question d'équilibre, pas trop contrebalancé par la souffrance occasionnée, mais je peux vous rassurer, ce n'est pas demain la veille que la maladie chronique et la possibilité d'expérimenter un dépassement de la maladie va être à l'ordre du jour.
Ça, la maladie, il y en aura toujours, mais la question c'est qui va nous apprendre justement le bon usage de ces maladies, et peut-être que ça n'est pas justement là le seul rôle du médecin, mais d'autres choses que le monde technoscientifique a mis à l'écart ou a eu tendance à oublier. Le fait d'assumer justement le drame, d'assumer aussi l'incompréhensible de notre condition. En tout cas, Anne-Laure, merci beaucoup. On a tous été passionnés de vous entendre et de vous avoir entendu aussi dans une conférence que vous avez donnée à l'Institut Philanthropos, « Quel progrès pour la médecine aujourd'hui ?» que nos auditeurs peuvent aussi écouter sur notre site iPhilanthropos. Merci, c'était Entre nous soit dit, une émission proposée par Fabrice Adjadj avec aujourd'hui Anne-Laure Bock et toujours à la technique, la silencieuse et nécessaire Marlène Caron. Merci.